Radio Barque, la deuxième partie de ce 30e pour la 10e saison. Nous avons comme invité aujourd'hui Bertrand Malquier. Alors dans la première partie, Monsieur Malquier, vous avez été le maire. Je vous propose d'être essentiellement le président de l'agglo dans cette seconde partie. On a vu d'ailleurs, pour l'histoire des bus, à quel point les choses, les compétences et les responsabilités sont parfois enchevêtrées.
Elles s'empilent.
Et même le maire, parfois, a peut-être du mal à s'y retrouver, non?
Non, j'ai l'habitude, et ça fait quand même 11 ans que je suis engagé dans la vie publique. Les compétences évoluent, mais j'arrive bien à les distinguer. Et je fais attention de garder les deux casquettes toujours à proximité et de m'adresser à l'agglomération en qualité de président et à la ville en tant que maire. Mais elles sont intéressantes quand elles sont entremêlées. C'est-à-dire que quand c'est la même personnes et les mêmes équipes, puisque tout l'intérêt de l'agglomération, c'est de mutualiser, de créer des économies d'échelle et surtout d'optimiser la ressource pour être beaucoup plus performante sur l'ensemble du territoire. Donc c'est intéressant d'avoir la ville-centre et l'agglomération qui sont main dans la main, puisque la moitié des habitants du territoire de l'agglomération est à Narbonne, l'essentiel de l'économie est sur la commune de Narbonne. Donc c'est intéressant que Narbonne soit à la fois la locomotive, mais également soit la tutrice, en tout cas l'accompagnatrice des communes de notre territoire.
Et alors, un bel exemple de tout cet entrelac, c'est par exemple les grands buffets. Ils sont à Narbonne, mais ça concerne aujourd'hui le Grand Narbonne.
Tout à fait. Et alors, en reprenant la suite de Didier Mouly, avec Henri Martin et Christian Lapalu, nous allons dans tous les territoires. On a dit que l'on faisait aucune différence entre la taille des communes, le potentiel économique des communes ou le potentiel fiscal. On s'adresse à chaque habitant du territoire comme s'il était unique. Et du coup, on va dans chaque commune. On est allé à Montredon, on est allé à Villedaigne, on est allé à Névian dernièrement pour inaugurer un magnifique équipement. Et à Névian, des habitants m'ont saisi spontanément et m'ont dit bravo, merci pour les grands buffets, ça nous permet d'avoir cet équipement. Nos familles, quand ils viennent nous visiter, aiment le fréquenter, mais également on a des chambres d'hôtes, on remplit grâce aux grands buffets. Donc effectivement, c'est un équipement qui est sur le territoire de la ville de Narbonne, c'est un équipement communautaire, l'espace des libertés, et les grands buffets font partie de cet équipement d'ensemble.
Alors, il faut quand même donner quelques explications, parce que ceux qui ont suivi l'actualité ont eu l'impression que le torchon brûlait, que les grands buffets, ça y est, c'était fichu pour Narbonne. Tout un tas de scénarios ont été imaginés, bâtis. Bon, finalement, vous avez réussi à faire en sorte que tout se rassénère d'une certaine façon.
Alors effectivement, nous sommes dans des territoires qui sont concurrentiels. Même si nous nous entendons bien, Carcassonne a essayé d'attirer l'entreprise Les Grands Buffets sur son territoire. Béziers a essayé d'attirer, comme Perpignan, Les Grands Buffets sur leur territoire respectif. Narbonne, on a une obligation, le Grand Narbonne, c'est de sauvegarder l'emploi existant et bien évidemment de créer les conditions de la croissance qui vont permettre un emploi nouveau sur notre territoire. Les Grands Buffets, c'est indéniable. C'est une locomotive d'attractivité de notre territoire. Il y a 350 000 visiteurs par an. C'est le premier restaurant en termes de chiffre d'affaires français et l'un des premiers européens. Et derrière les 200 emplois des grands buffets, il y a également tout ce que les gens ne voient pas. Toute l'économie induite, tous les emplois indirects qui sont tous les artisans de la gastronomie qui fournissent les grands buffets, les viticulteurs, les volaillers, tous les artisans qui participent à la rénovation, puisque les grands buffets à Louis Privat investissent beaucoup dans la rénovation, dans la modernisation pour toujours garder cette attractivité de l'équipement. Donc tout ça génère une économie très très forte.
Et on avait peut-être à un moment sous-estimé l'impact direct et indirect de ces grands buffets.
Moi, je vais vous parler de chiffres. Aujourd'hui, par Côte du Midi, c'est-à-dire l'Office de tourisme intercommunal, nous avons les chiffres. On sait que le client des grands buffets passe en moyenne entre 2,5 et 3 jours et demi sur le territoire. Il consomme le territoire. Il va consommer de la chambre d'hôte à Mayac. Il va acheter de l'huile d'olive à Bise-Minervois. Il va aller dormir faire dans les hôteliers de la Narbonnaise. Il va dans les Halles, il va dans tous les autres restaurants de Narbonne. Le client des grands buffets consomme la Narbonnaise. Et donc, il est indispensable. Ça, ce sont les données chiffrées. C'est la réalité économique. Donc, il fallait, dans cette négociation, trouver, c'est ce que l'on a dit, et je le dis avec le menton, un accord gagnant-gagnant. Préserver les intérêts de nos contribuables, mais à la fois permettre à Louis Privé et à son entreprise d'avoir les conditions nécessaires à sa légitime croissance, parce que c'est une entreprise de droit privé, à but lucratif, on l'entend parfaitement, mais elle sert l'intérêt général, puisque derrière cette locomotive, eh bien, une multitude d'entreprises développent leur propre chiffre d'affaires. Donc pour nous, c'était trouver un équilibre, un juste équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt privé. C'est ce que nous avons, je pense, réussi à faire. C'est un travail d'équipe. Henri Martin a œuvré dans ce sens en maintenant les relations pendant 6 ans avec Louis Privat. Nous avons négocié un nouveau loyer qui est en correspondance avec les loyers pratiqués sur le marché. Nous allons moderniser, c'est-à-dire rénover une nouvelle pâte architecturale sur l'entrée des grands buffets, retravailler toute l'étanchéité, toute la coque, l'écrin de l'espace de liberté, permettre aux piscines d'être complètement rénovées, les plages, le traitement de l'air. La patinoire va être totalement rénovée également, les espaces comme le bowling, toute la partie publique va être rénovée, mais également nous allons agrandir la partie privée. Et en contrepartie, avec un amortissement sur 20 ans, l'agglomération porte les travaux d'agrandissement. Mais attention, si l'agglomération porte les travaux d'agrandissement, Louis Privat fait tous les travaux d'aménagement. C'est là aussi 5,5 millions d'euros qui vont être investis par Louis Privat pour équiper les nouveaux équipements qui sont une grande épicerie et un salon de thé qui va être l'accessoire de la partie principale, le restaurant, les grands buffets. Donc pour nous, c'est une attractivité encore plus nouvelle. L'objectif, il est commun à Louis Privat, au Grand Buffet et à l'Espace de Liberté et au territoire, c'est de devenir d'ici à 2026 le premier site touristique d'Occitanie avec 800 000 visiteurs par an.
Voilà. Et grosso modo, la répartition entre les grands buffets et le reste de l'Espace de Liberté, c'est à peu près 50-50 ?
Moitié-moitié.
Ou, à peu près.
Oui, ouais, c'est ça, moitié-moitié.
Oui, donc vous pensez qu'on peut rester sur cette répartition-là et que ça profite à chacun.
Exactement, ça sera 400 000 sur les équipements publics, avec une quote-part importante de grands Narbonnais qui fréquentent la partie publique, hein, les piscines, le bowling, la partie patinoire, et les grands buffets, essentiellement des gens de l'extérieur. Dans la négociation également, parce qu'on a ressenti, tant Louis Privat que le Grand Narbonne, on a ressenti que les habitants du territoire avaient perdu cet attachement à cet équipement qui était né sous le nom de Cafétéria Liberté, parce qu'il n'était plus prioritaire. Et là aussi, nous avons dans la négociation, et très librement avec Louis Privat, réfléchi à un système pour redonner ce sentiment d'appartenance locale aux grands Narbonnais, qui pourront avoir un canal de réservation privilégié, qui pourront avoir des réservations particulière, à plus court terme, pour pas, puisque c'était un peu la problématique, quand vous aviez envie de réserver, eh bien vous aviez une réservation que 3, 4 mois, 6 mois après, c'était souvent complet. Donc là, il y aura des canaux de réservation prioritaires qui vont être travaillés, améliorés, pour qu'il y ait ce sentiment d'appartenance locale et cette priorité aux locaux pour réserver aux grands buffets, oui, profiter de l'expérience gastronomique.
C'est-à-dire que très concrètement, les Narbonnais, les citoyens Narbonnais auront un accès plus facile ou un peu préférentiel.
Exactement, c'est exactement ça.
Oui, et alors selon quelle modalité, c'est peut-être pas encore tout à fait fixé.
Si, c'est à peu près finalisé, c'est-à-dire que ils auront jusqu'à 15 jours, je vous le fais de mémoire, hein, mais jusqu'à 15 jours, on réserve des tables qui ne seront pas mises en réservation publiquement, et ils ont jusqu'à J-15 jours pour pouvoir réserver ces tables-là. Il y a un allotement de tables qui leur est réservé. Et après, au-delà de 15 jours, eh bien,
ils sont remis dans le... dans le circuit.
Voilà.
Voilà, on a compris. Un petit mot, alors, un mot important quand même. Vous l'avez évoqué dans ce qu'on appelle les compétences de l'agglo. Alors, il y a les zones d'activité, c'est comme ça qu'on les appelle. J'allais dire zone industrielle, mais c'est un vieux vocable qu'il faut oublier.
Exact.
Et il y en a une qui est très importante aujourd'hui et sur, qui se développe et qui a du potentiel de développement, c'est celle de Montredon, celle du pôle santé. Là, il y avait une affectation qui semble être non pas remise en cause, mais légèrement modifiée quant au type d'entreprise qu'elle devra héberger.
Oui, en accord avec Jean-Marc Jansana, le maire de Montredon, il y a un travail qui est fait avec entre l'agglomération et la commune de Montredon pour déspécialiser le PLU de Montredon et permettre que la deuxième couronne, on garde cette logique de maillage avec du médical et paramédical en périphérie immédiate de la clinique de Montredon. Et dans le deuxième périmètre, eh bien, on pourra déspécialiser et proposer à des entreprises de différents secteurs économiques le foncier disponible. Mmh. Et c'est d'autant plus important que nous allons signer avec Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de la métropole de Toulouse, le 18 mai prochain, nous allons signer une convention, un accord entre la métropole de Toulouse et le Grand Narbonne pour autour de trois axes, le développement économique, le tourisme, et la culture, le patrimoine, favoriser les échanges économiques. Toulouse est très attractif à cause de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui est issue de la loi climat et résilience.
C'est-à-dire des restrictions dans les possibilités d'urbaniser.
50% de potentiel foncier en moins par rapport aux 10 années précédentes. Pour Narbonne, pour donner un ordre d'idée, sur les 10 dernières années, nous avons urbanisé 80 hectares. Pour les 10 prochaines, nous n'urbaniserons que 40 hectares. Eh bien, Toulouse, qui est très attractif, c'est la capitale régionale, se retrouve contrainte et donc pourra renvoyer des entreprises qui souhaitaient s'installer sur son sol chez sa petite sœur, Narbonne, qui est toute prête à accueillir ce potentiel économique que nous enverra Toulouse.
Oui, ça a pu surprendre d'ailleurs un petit peu. Vous avez établi des relations, une sorte de tête de pont avec la grande métropole toulousaine.
Oui, c'était indispensable. Toulouse attire l'économie. Nous, nos touristes sont essentiellement issus de Midi-Pyrénées. Je vous donne quelques détails. Il y aura une semaine sur la place du Capitole à Toulouse qui sera dédié, ça sera la semaine de la Côte du Midi, donc tout le Grand Narbonne, nos artisans, nos commerçants, nos producteurs locaux exposeront la destination, la marque Côte du Midi sur la place du Capitole toute une semaine, ça sera la semaine narbonnaise sur la place du Capitole, Narbonne investit le Capitole pour pouvoir avoir une vitrine extraordinaire. Donc c'était intéressant de redévelopper cet axe Toulouse-Narbonne. Donc Jean-Luc Moudenc sera présent à l'inauguration de la première tranche des travaux de Narbonne Plage. Il fait partie du protocole, il sera présent. Et le matin, nous signerons avec le bureau exécutif du Grand Narbonne, Michel Pierre, Henri Martin, Christian Lapalu, Emma Bellotti et Viviane Durand. Nous signerons ce protocole d'engagement entre la métropole de Toulouse et le Grand Narbonne.
Narbonne-Toulouse, il ne restera plus qu'à faire une course cycliste Narbonne-Toulouse ou Toulouse-Narbonne et la boucle sera bouclée.
Franchement, j'aimerais faire un jour un match de rugby de top 14 Narbonne-Toulouse.
De top 14, rien que ça.
Il faut avoir des ambitions.
On marque, Bertrand Malquier, une seconde pause.